Bonjour à tous et à toutes. Frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Depuis plusieurs décennies maintenant, le monde occidental s'est aventuré dans une sorte de marais extrêmement inquiétant. Je veux parler de la décomposition de la famille traditionnelle. Ce que j'entends par famille traditionnelle, c'est bien entendu cette famille dotée d'une structure fondamentale, cohérente, à savoir un père et une mère. Un homme et une femme, comme le dit le titre du fameux film de François Truffaut. Un homme et une femme, deux parents de sexe différent, capables de bâtir ensemble un foyer équilibré, solide, un foyer qui aura toutes les chances, toutes les conditions requises pour être en mesure d'être rempli de succès et d'y choyer leurs enfants. Or, que voyons-nous précisément autour de nous aujourd'hui? Nous voyons, premièrement, une épidémie d'absence paternelle. Et les conséquences de cette épidémie sont dramatiques. À tel point qu'avant de pouvoir trouver dans la société, de nos jours, une famille stable, solide, avec un père responsable, avec une mère heureuse et épanouie, et les enfants respectueux de leurs parents, eh bien avant de pouvoir trouver ce genre de famille, il faudra chercher longtemps. Je crois que nous sommes d'accord sur ce sujet, la dérive sociétale, éloigné du modèle divin, modèle parfait, modèle profondément bienveillant. Cette dérive est telle que tous, et à divers degrés, eh bien nous sommes plus ou moins affectés. Nous sommes touchés, nous sommes même parfois, par moments, pour certains d'entre nous, carrément meurtris profondément dans nos existences. On ne soulignera jamais assez l'importance de la présence émotionnelle d'un père auprès de ses enfants, dans la vie de ses enfants. Un père engagé, un père motivé pour passer simplement du temps avec ses enfants. Des enfants vraiment heureux d'ailleurs, des semaines, des mois, des années plus tard, de pouvoir dire « je me souviens, papa était là, il s'est intéressé à moi, c'était tellement bien ». Père de famille, votre rôle auprès de vos enfants est un rôle concret. Il est même absolument décisif pour leur avenir. Et la Bible nous en parle. Bien sûr, il est vrai que la parole divine décrit le monde merveilleux que Dieu nous prépare et vers lequel nous nous dirigeons. Et c'est l'excellente nouvelle. Mais pour autant, elle ne fait pas non plus l'impasse sur le passé, sur les erreurs du passé. Par exemple, dans l'histoire qui nous est proposée et que nous pouvons lire comme exemple pour nos vies, les décisions hasardeuses de certains grands leaders, grands dirigeants du peuple de Dieu. En effet, d'Abraham jusqu'à David et bien au-delà, nombre d'entre eux ont dû faire face à de grandes difficultés dans leurs relations familiales. Nous savons bien que garantir une vie de famille équilibrée aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Et nous savons bien aussi que ni vous, ni moi, ni personne, nous ne sommes parfaits. Simplement, l'évolution sociale ne facilite absolument pas la présence des pères auprès de leurs enfants. Et depuis plusieurs décennies déjà, le rôle du père est tourné en ridicule dans les différentes productions audiovisuelles, dans les films, dans les séries télévisées. Les pères y sont décrits comme des individus incapables, incompétents, voire même bornés et stupides. Et qui maintenant a le beau rôle dans le couple, dans ces mêmes productions, les mères de famille, bien sûr, elles sont bien obligées de reprendre le gouvernail abandonné par un père soi-disant incapable, la plupart du temps, et bien sûr, le leadership n'est plus contesté par ce pauvre mâle paternaliste dénué de la moindre sagesse et du moindre respect. Telles sont les descriptions des productions télévisées, plus ou moins, dans le monde actuel. Pourquoi s'étonner avec de tels choix éditoriaux, avec de telles productions, justement en voyant aujourd'hui les conséquences dévastatrices de la désintégration sociale. Oui, nous en sommes arrivés maintenant à un point où le monde occidental récolte aujourd'hui les fruits de la dévalorisation du rôle paternel. Pourtant, absolument indispensable ce rôle paternel, indispensable au bon ouvrage, au bon tissu familial. La société est aujourd'hui presque totalement désorientée quant au rôle réel, respectif, d'un père et d'une mère au sein de la famille, dans l'éducation de leurs enfants. Et la tendance aujourd'hui cherche à nous pousser à mépriser, ne serait-ce que le concept familial. Les mots père, mère, mari et femme se raréfient, même, je dirais, dans le vocabulaire courant, médiatique de l'audiovisuel public et même de l'audiovisuel privé, et cela depuis des décennies. Au final, et au bout du bout, combien d'adolescents se retrouvent maintenant sans un père? Les pères sont absents de leur vie et ils ne s'intéressent nullement à la vie de leurs enfants. Combien d'entre eux sont devenus soudain violents et délinquants, sans la moindre honte devant l'étendue de leur casier judiciaire d'ailleurs? Ces millions d'enfants qui grandissent sans père, ces jeunes hommes privés du solide exemple paternel sont devenus maintenant des proies faciles pour les chefs de gang, pour les bandits, pour les voyous, dont les prétendus exploits d'ailleurs saturent au passage les écrans télévisés presque chaque jour dans le monde occidental. Il y a aux États-Unis un sociologue en particulier qui s'appelle Robert Sampson. Il est enseignant à l'université de Harvard. Il a clairement affirmé qu'en effet, il est tout à fait possible aux États-Unis de prédire l'évolution, dans une ville en particulier, l'évolution de la violence urbaine. Rien qu'en comparant un chiffre avec les autres, une valeur, le nombre de foyers sans père. Mais cela ne veut pas dire qu'en Europe, les choses sont différentes. À Londres, par exemple, en Angleterre, la commissaire de la police métropolitaine, Madame Cressida Dick, dans un article assez récent, a dit ceci. Les pères absents, c'était le titre de l'article, elle a mis en exergue l'une des causes favorisant justement la recrudescence de la violence, les pères absents. Et elle a reconnu que le phénomène des pères absents représente un véritable challenge, un défi, car les modèles masculins jouent précisément un rôle essentiel, d'après ses propres observations et son commentaire. De nombreux jeunes hommes, dit-elle, sont impliqués dans la criminalité et sont en quête d'affection. Aux États-Unis, il existe un centre qui s'appelle le Centre national pour la paternité. Je doute qu'il existe un tel organisme en Europe ou même en France, mais voici ce qu'il a publié comme chiffres, des chiffres extrêmement inquiétants. 44% des enfants issus de foyers sans père vivront dans la pauvreté. Presque la moitié des enfants issus de foyers sans père. Soit près, d'ailleurs, ce pourcentage est près de 4 fois plus important que celui des enfants issus de familles composées d'un couple marié. 4 fois plus. Les enfants sans père courent aussi un risque considérablement plus élevé d'abus de drogue et d'abus d'alcool, selon le département américain de la santé. Également, les enfants issus d'un foyer monoparental sont 2 fois plus susceptibles de commettre un suicide. C'est terrifiant. Presque les 3/4 des élèves qui abandonnent l'enseignement secondaire aux États-Unis sont des enfants sans père. C'est la réalité. Un adolescent issu d'une famille monoparentale a plus de chances de s'engager dans la délinquance et la violence que les enfants issus de familles composées d'un couple marié. Et enfin, les adolescents vivant sans leur père sont plus susceptibles d'être responsables de grossesses précoces et bien souvent indésirées par rapport à ceux qui vivent avec un père à la maison. Nous comprenons tous, pourtant, que le fait d'avoir une famille solide est extrêmement important par voie de conséquence si nous voulons préserver, si nous voulons choyer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Le concept de famille est donc crucial. Il est absolument fondamental, il est vital et il est au cœur d'une véritable société, une société véritable, véritablement organisée et qui peut prétendre à un avenir brillant, elle. Mais est-ce l'humanité qui, au final, dès le commencement, je dirais, a inventé le concept de famille? Non, absolument pas. Le concept de famille a été institué par le Créateur Tout-Puissant, Dieu lui-même. Et pour preuve, nous le voyons dans les pages de la Bible, dès le commencement. Cette vérité intemporelle est effectivement inscrite dans le livre de la Genèse. Il a célébré, lui, Dieu, le premier mariage unissant Adam et Ève. En tant que mari et femme, et non seulement il l'a célébré, mais voici ce qu'il a révélé. Il leur a révélé un mystère absolument unique, qui allait être un événement précurseur, symbolique, de quelque chose d'encore plus grand que Dieu avait prévu, et dont nous allons parler. Il leur a déclaré en effet que eux, Adam et Ève, formaient maintenant une seule personne. Ils ne faisaient plus qu'un. Et c'est ainsi que Dieu a créé littéralement l'unité familiale. Dans Genèse, nous le lisons dans Genèse chapitre 2, verset 24, et nous le lisons aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 19, verset 5. Genèse 2, 24 et Matthieu 19, 5. L'un des objectifs majeurs de Dieu pour l'union conjugale était de susciter une descendance fidèle, une descendance saine et vertueuse. Dieu se révèle à nous comme notre Père. Il est notre Père, et Jésus est son Fils, et il est notre frère aîné. Oui, Dieu est une famille, et il se soucie profondément des familles humaines. Notre Père céleste, notre Créateur tout-puissant, utilise la famille comme une merveilleuse analogie dans les pages de la Bible. Avant de pouvoir comprendre cette analogie dont je vous parlais et dont nous allons développer les détails, nous devons déjà comprendre ce qu'est une famille. Dans ma famille, en France, nous rendions visite à nos grands-parents tous les ans. C'était d'ailleurs l'occasion inoubliable de rencontrer non seulement mes oncles et mes tantes, mais aussi mes cousins et mes cousines, et nous jouions ensemble. Et ces réunions de famille sont restées gravées, bien sûr, dans ma mémoire, comme autant de moments merveilleux. Mais ce qui est vraiment remarquable, et ce que nous avons tous remarqué au fil des ans, ce n'est pas le fait que nous avons tous grandi, c'est évident, mais surtout, c'est à quel point, en grandissant, eh bien, nous ressemblons de plus en plus à nos parents. Nous finissons par ressembler à nos parents. En songeant, voyez-vous, à ces moments, en regardant chacun, en regardant nos transformations respectives avec le temps, nous pourrions, nous chrétiens, repenser à un verset important dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, Éphésiens 5, 1, où il écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Des imitateurs de Dieu. Nous imitons nos parents. Et en effet, vous l'avez certainement remarqué, les enfants ont un don absolument incroyable pour imiter leurs parents. C'est presque inné. Je pense que ça l'est. Ils captent tout, ils observent tout. La façon dont les parents parlent, leur façon de parler, la façon dont ils marchent. Chaque manie, chaque petite particularité devient un modèle de comportement pour chacun d'entre eux. Et ils veulent le suivre. Ils sont naturellement imitateurs. Ils observent aussi, bien entendu, cela ne leur échappe pas, les valeurs, les croyances de leurs parents, selon lesquelles leurs parents vivent des choses fondamentales. Et ces valeurs et ces croyances qui prennent de la valeur pour eux, ils veulent les avoir aussi. Elles deviennent pour eux autant de repères qui leur permettent eh bien, de distinguer, de discerner les vertus les plus importantes. Les vertus de la vie par rapport à tout ce qui se révèle être de moindre importance. Et puis bien sûr, avec le temps, eh bien, nous mûrissons tous. Les adolescents deviennent de jeunes adultes et les affaires de la vie commencent à prendre de l'importance. Elles deviennent plus complexes, les tournures se compliquent. Il nous faut en effet continuer d'affronter la vie avec tous ces événements, dans tout ce qui se présente à nous. Nous adoptons bien sûr nos propres idées, nous faisons nos propres choix et nous devenons des personnes à part entière, indépendantes. Installés dans nos propres dépendances, en quelque sorte. Cela veut dire que nous affermissons nos valeurs et nos croyances. Et ainsi, nous choisissons, par exemple, soigneusement, eh bien, nos amis. Nous les sélectionnons. Et puis, un jour, nous choisissons aussi notre partenaire, celui ou celle qui deviendra notre époux, notre conjoint. Et bien entendu, Christ savait ces choses. Jésus connaissait bien ces choses et il savait qu'elles auraient un impact dans nos vies. Il a rappelé à ses disciples un avertissement important et dans Matthieu chapitre 18, verset 3, voici ce qu'il leur dit. « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc nous avons besoin de devenir des enfants. Mais des enfants de qui? Des enfants de Dieu. Avec, en quelque sorte, tout ce qui caractérise des enfants. Nous devenons comme des petits-enfants. Lorsque Dieu nous a appelés à comprendre la voie divine, nous avons décidé de lui faire confiance. Nous avons décidé de répondre positivement à son appel et à devenir des enfants de Dieu, des enfants malléables, des enfants enseignables par Dieu, dépendants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous continuons ainsi précisément d'imiter notre Père Céleste et d'imiter aussi notre frère aîné Jésus-Christ, notre grand frère. Mais cela pourrait paraître, bien sûr, plus facile à dire qu'à faire. Alors, quelle est la réalité des choses? Comment notre esprit peut-il seulement concevoir déjà l'idée d'un Père suprême, l'idée même de Dieu? En effet, cela peut être déjà difficile à appréhender. Comment, en effet, pouvons-nous imaginer un être spirituel que nous ne voyons pas, un être immortel, tout-puissant, omniscient, conscient de toutes choses, affranchi d'ailleurs des contraintes du temps et de l'espace, sans commencement de vie, ni fin de vie? Il habite l'éternité et il régit l'univers. Et pour l'être humain, en effet, cela représente un défi. Comment imaginer tout cela? Comment imaginer un être divin qui a toujours existé? C'est sans doute hors de notre portée intellectuelle, il faut bien l'avouer, notre portée humaine réduite. Peut-être pouvons-nous commencer à y voir un petit peu plus clair en comprenant que tout ce qui est dans le monde, et même dans l'univers que nous pouvons observer, a eu un commencement. Un jour. Mais que cela n'est qu'une petite partie de ce que Dieu a fait. Dieu a créé les univers visibles et invisibles, qui ont tous eu un commencement, l'univers des esprits, des anges. Mais Dieu est en effet beaucoup plus grand, précisément, que les 12 000 milliards de galaxies que les scientifiques ont essayé de dénombrer, avec un nombre qui continue d'évoluer au fur et à mesure de la puissance des télescopes, bien sûr. La science continue d'évaluer de tels nombres, mais Dieu est beaucoup plus grand, voyez-vous. Nous n'avons aucune peine à l'imaginer. Il est beaucoup plus grand que les myriades et les myriades d'anges également qu'il a créés et qui, eux aussi, ont eu un commencement. Cependant, bien sûr, la question reste toujours posée. Comment sommes-nous censés commencer à comprendre un Dieu qui est, par sa nature même, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre entendement? Eh bien, voyez-vous, la clé, c'est précisément la paternité. La paternité. Encore et encore, Dieu utilise ce concept de père, de paternité, et la famille, pour nous, nous aide à établir un lien précisément, un lien avec lui. Alors certes, il est le Dieu créateur, il est le Dieu tout-puissant, devant lequel toute créature n'est presque rien, nous le comprenons bien, il est le Dieu créateur de l'univers, mais il est aussi notre Père qui est aux cieux, et ça c'est important, c'est ainsi qu'il se présente. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, dans la prière que nous lui adressons, cela prend tout son sens. La paternité est une notion que nous sommes capables de saisir, puisque nous avons tous un père. Nous savons ce qu'elle signifie et à quoi elle ressemble. Nous l'avons observé, certains d'entre nous l'ont même vécu en tant que père. Nos enfants nouveau-nés, la première fois qu'ils nous ont vus, rappelez-vous ce petit regard calme et tendre que, personnellement, mon fils m'a lancé pour la première fois dans sa vie, au moment où j'étais littéralement rempli d'émerveillement, rien qu'en le voyant, je lui ai dit « mon fils à moi ». Comment pourrais-je oublier ce moment? Que savait-il de moi? Il ne savait rien. Il voyait cet être qui le regardait devant lui Et au fil des minutes, au fil des heures, il a commencé à ressentir que j'étais là, j'étais avec lui, j'étais son papa. Et ce sentiment, bien sûr, il l'a vu, il l'a compris, il l'a renforcé au fil du temps, et j'avais donc déjà avec lui cette relation. Il avait cette relation déjà avec moi. La famille avec un père, avec une mère, qui forme, précisément, je l'ai dit, une seule chair, ce n'est pas simplement une analogie commode pour essayer de comprendre Dieu. En réalité, voyez-vous, Dieu est une famille. Dieu est une famille. Et les familles que nous formons ici-bas, elles aussi, elles ont été conçues par Dieu pour refléter son institution, son grand projet divin de création d'une famille divine. Mais cela va bien plus loin encore. L'apôtre Paul a écrit au sujet du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il dit ceci. Notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Toute famille tire son nom de notre Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons donc que Dieu, le Père, n'est pas un Père parmi beaucoup d'autres Pères. Non, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus que ça. Il est le Père. Il est le Père. Et sa famille divine constitue le modèle de toutes les familles humaines ayant jamais existé. Toutes les familles humaines à travers le monde entier. Nombre d'entre nous, nous aimons naturellement repenser à tous les bons souvenirs qui ont émaillé notre enfance, notre vie familiale, lorsque nous étions jeunes. Nous n'aimons pas trop ressasser les mauvais moments, les frustrations, les offenses, les déceptions, les tristesses, les cœurs brisés, les mauvais choix de notre vie familiale du passé. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, c'est là, je le disais, que les choses commencent à devenir compliquées et par moments, il faut bien le reconnaître, aussi inconfortables. Même si, en tant que chrétiens, nous pouvons reconnaître que nos vies sont plus heureuses que la moyenne. Nous récoltons des bénédictions. Déjà, nos vies sont porteuses de beaucoup plus d'espoir que les athées et les agnostiques qui ne savent pas ce qu'il y a après la mort, qui ne comprennent pas la raison de notre existence. Ce n'est pas que nous sommes plus intelligents qu'eux, c'est tout simplement que nous avons été appelés à cette connaissance, et un jour, ils seront appelés à partager aussi cette connaissance. Et ce sera à eux de savoir ce qu'ils en feront. Mais voyez-vous, tous autant que nous sommes, nous avons vécu des déconvenues dans notre passé. Pourquoi avons-nous vécu de telles déconvenues? On peut se poser la question. Et d'ailleurs, pourquoi la société aujourd'hui est de plus en plus antichrétienne, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, pourquoi la société descend-elle toujours plus bas dans cette espèce de spirale infernale et fatale? Comment expliquer toutes ces déconvenues, telles que nous les observons aujourd'hui? Tout d'abord, quand on lit l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, comment pourrions-nous être vraiment surpris de ce que nous voyons aujourd'hui? Devrions-nous en être étonnés? Depuis des milliers d'années, l'humanité continue en effet d'ignorer les instructions de Dieu, et cela en dépit de la patience divine, inaltérable, inaltérable. Dieu sait que son plan se déroulera quoi qu'il en soit. Ce bon déroulement de son plan, il est garanti par lui. Mais attention, ce plan va avoir pour le règne humain un dénouement qui arrive bientôt. Le règne de l'humanité sur elle-même va prendre fin et elle va faire place au règne divin sur le règne humain. Dieu va prendre les choses en main. Par voie de conséquence, l'unité familiale, dans le passé, en a souffert énormément de toutes ces déconvenues, de tout ce règne humain sur le règne de l'homme sur l'homme. Et l'unité familiale a subi des dommages très lourds. Et nous les voyons aujourd'hui au final. Chacun d'entre nous aborde le sujet familial d'une façon différente. Nous avons chacun, plus ou moins, notre propre conception de ce qu'est la famille, de ce qu'elle devrait être, et nous sommes d'ailleurs libres de le faire. Nous sommes libres d'entreprendre, grâce à nos choix, ce que nous voulons faire du concept familial. Qu'est-ce que la famille pour nous? Mais, une chose est sûre pour chacun d'entre nous, un jour nous devrons en répondre. Nous devrons répondre de notre gestion du rôle familial et du résultat que nous avons produit, chacun d'entre nous. Alors, la question aujourd'hui est la suivante, sur quel modèle basons-nous notre définition de la famille? Et c'est cela que je voudrais aujourd'hui développer dans ce sermon qui est intitulé « Parents isolés, mais bon éducateur ». Alors, ce sermon est fait pour tous les pères, mais en particulier pour les pères qui ont en charge un foyer monoparental. Notre façon d'envisager la famille, je l'ai dit, est cruciale et elle influence directement notre façon d'envisager Dieu, de comprendre qui est Dieu. Il y a malheureusement ceux qui persistent à vouloir ignorer la paternité suprême du Dieu créateur et même d'ailleurs aussi à vouloir adopter un modèle totalement différent, voire opposé, voire déjà éloigné du modèle divin. Et voyez-vous, ignorer le rôle de Dieu, ignorer la présence de Dieu au sein des différentes familles de l'espèce humaine, c'est se préparer en fait des lendemains à problème, des lendemains très difficiles, non seulement pour les parents, mais aussi pour leur progéniture, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour toute la descendance. Il y aura des conséquences. Vouloir ignorer ou passer sous silence ce Dieu suprême qui est plus grand que chacun d'entre nous, c'est déjà en soi un manque de sagesse, évident. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse suprême, nous laisse libres de nos choix. Et il nous avertit en nous rappelant les conséquences d'une indépendance vis-à-vis de lui, une indépendance coûteuse, une indépendance dangereuse. Certaines des révélations les plus profondes de la Bible concernent la nature de Dieu, la nature de son plan pour l'humanité. Elles sont exprimées à travers le prisme de l'unité familiale, précisément. L'unité familiale. En d'autres termes, si nous avons une mauvaise compréhension du concept de la famille, eh bien, nous n'allons pas pouvoir comprendre qui est Dieu. Et ce qu'est Dieu, ce qu'il représente. Lorsque nous lisons l'expression « Dieu le Père », quel sentiment peut bien être en nous? Quel sentiment cela suscite-t-il en chacun de nous? Sommes-nous contents? Sommes-nous satisfaits? Avons-nous en nous un sentiment de sécurité? Ou bien, sommes-nous effrayés? Ou éprouvons-nous de la méfiance? Quelle est, en fait, l'étendue de notre relation avec notre Père humain? Cela déjà peut être un exemple et en effet un indice. Quelles sont les émotions qui ont pu naître dans notre relation avec notre Père humain? Notre vie, notre expérience personnelle, elle nous a enseigné à beaucoup d'entre nous ce que signifie le mot Père. Et la triste vérité, c'est que la réalité telle qu'elle est, malheureusement, aujourd'hui, est bien différente de ce que Dieu avait conçu, de ce que Dieu voulait. Ce sont deux choses bien distinctes, et ça nous devons le garder bien présent à l'esprit. Dieu ne souhaitait pas que la société évolue dans ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, il est vrai que certains parmi nous, frères et sœurs, ont perdu un parent en bas âge. Et puis d'autres ont été adoptés, ou ont grandi dans des familles d'accueil, ou dans un foyer monoparental, et même peut-être certains ont subi des abus. C'est possible, ces choses existent. Mais si, par contre, la vie, heureusement, nous aurait épargné ces choses, eh bien, d'un autre côté, nous aurons du mal à imaginer ce que toutes ces personnes ont traversé. Donc, voyez-vous, certains d'entre nous ont pu traverser ces choses. Elles seront utiles un jour pour aider celles et ceux qui ont vécu des choses similaires. Peut-être avez-vous été fils unique, peut-être avez-vous été fille unique, ou bien au contraire le petit dernier d'une famille nombreuse, peut-être avez-vous eu une douzaine de frères et sœurs, Peut-être vos parents étaient-ils fortunés, ou il est possible aussi que vous ayez vécu dans une famille pauvre. Est-ce que vos parents étaient débordants d'amour pour vous? Peut-être pas. Une chose est sûre, parmi toutes ces expériences, toutes ces conditions différentes qui nous affectent les uns et les autres, eh bien, il y a la nôtre, quelque part. Notre vie, notre parcours. Et souvent, nous ne savons pas ce que d'autres ont pu traverser. Nous avons du mal à imaginer ce que d'autres ont pu ressentir. Ainsi, la seule façon de pouvoir comprendre ce qu'est la famille de Dieu, eh bien, pour cela, il faut laisser la parole de Dieu nous transformer. Et nous avons toutes les aides nécessaires pour pouvoir mieux la comprendre, j'en ai parlé dans un sermon précédent. Donc, lire la parole de Dieu va nous aider à redéfinir notre vision personnelle de ce qu'est réellement une famille. Nous l'avons déjà revu, s'il n'y a pas l'union d'un mari et d'une femme, il ne peut pas y avoir d'unité familiale. C'est ainsi que Dieu l'a établi. C'est ainsi que Dieu l'a établi, et cela dès l'aube de l'humanité, dès le commencement. Il l'a édicté dans les premières pages de la Bible, où nous lisons précisément ces mots, dans Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. C'est une loi. C'est une loi divine, une loi suprême. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu avait une raison bien précise de bâtir la famille autour d'une équipe, mari, femme, étroitement unie. Et c'est au premier siècle de notre ère, avec la naissance de l'Église de Dieu, que l'apôtre Paul a donné des instructions précises à l'intention des maris et à l'intention des épouses. Paul écrit ceci dans l'une de ses lettres, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Éphésiens 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et comme il s'est livré lui-même pour elle. » Et aux épouses, il écrit, quelques versets auparavant, verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Ce n'est pas négatif. C'est une question de bon fonctionnement de l'équipe. Soyez soumise à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et l'Église est son corps, le corps du Christ, et dont il est le Sauveur. L'apôtre Paul était un envoyé de Jésus, un apôtre, c'est le sens du mot apôtre, un envoyé, un émissaire du Fils de Dieu. Et c'est le sens même de ce mot, apôtre. Et c'est à Paul que Dieu a révélé le mystère dont nous parlions au début du message, le mystère de la relation homme-femme. Et Paul remonte ainsi à la Genèse. Il remonte au texte divin initial et il établit le lien entre tous ces éléments. Il cite la Genèse en disant ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils seront soudés l'un à l'autre. Ils seront une seule chair. » Et il ajoute, il écrit, « Ce mystère est grand. » Donc il parle du mystère divin du mariage. « Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Comprenons bien la logique de ce mystère essentiel. Le mystère du mariage qui nous est révélé. Christ aime l'Église. Les maris doivent ainsi aimer leur femme. L'Église suit son chef, qui est Christ. Les femmes doivent suivre leur mari, tout comme leur mari suivent Christ. Donc nous avons tous un chef, en quelque sorte. On ne peut pas dire que ce soit difficile à comprendre. C'est un mystère fondamental et un mystère précieux qu'il nous faut intégrer, qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut accepter. Et dès que nous comprenons ces choses et le bien fondé de ces choses, nous faisons de ce mystère une partie de nous-mêmes. Nous l'acceptons, nous l'intégrons. C'est une image très parlante. Christ et l'Église. Un homme, une femme, un mariage, un seul corps, une seule chair. Mais dans la réalité, pourtant, Il nous faudra aussi, la réalité des choses, en tant que époux ou épouse, il nous faudra parfois faire des sacrifices. Par exemple, répondre par l'amour à un éventuel manque de respect, un éventuel manque d'amabilité. Ces choses peuvent, nous le savons très bien, elles peuvent arriver et elles arriveront. Soyons préparés. Soyons préparés à avoir l'attitude qui convient, l'attitude qui doit être là. Aimer ne vient pas toujours tout seul. Cela demande des efforts. Cela ne vient pas naturellement. Bien sûr, l'attraction homme-femme initiale, elle est naturelle, elle. C'est quelque chose de merveilleux. Mais au-delà de la, vous savez, de la soirée festive, au-delà du voyage de noces, des beaux couchers de soleil, des repas romantiques au clair de lune, la réalité de la vie prend le relais. Les problèmes surgissent. Et c'est là qu'on voit le véritable caractère d'un couple, un couple solide. C'était un couple, comme dirait Jean Gabin. Et oui, la solidité d'un couple se bâtit au travers des épreuves de la vie. Comment chacun va réagir et comment finalement le couple, ensemble et soudé, va tenir le coup comme une corde à deux brins. Hein. Voilà ce que nous dit la Bible. Le maintien du lien matrimonial demandera des efforts de la part des deux époux, individuellement, afin que l'équipe fonctionne bien. Ces efforts, nous les développons tout au long d'une vie de pratique. Et en tant que chrétiens, nous sommes d'ailleurs des réfugiés. Nous sommes réfugiés dans l'Église de Christ, dans l'Église dont le Christ est le chef. Nous ne sommes pas certains de la tournure des événements dans un an ou dans deux ans. Quels sont les événements prophétiques? Nous les connaissons, bien sûr, à travers les détails des prophéties qui nous sont données dans la Bible, les prophéties du temps de la fin, mais quand ces choses arriveront? Donc, nous devons faire face à la réalité de la vie. Et dans cette attente, nous méditons. Nous méditons de mieux en mieux sur la relation entre Christ et l'Église. Et à mesure que nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien, nous continuons effectivement de méditer à ces choses et d'être enrichis par cette connaissance biblique qui nous montre le cap. C'est tout à notre bénéfice en tant que couple, car dans le même temps, nous comprenons comment devenir de meilleurs maris et de meilleures épouses. La réciproque est également vraie. Notre développement, notre croissance en tant que meilleurs maris, en tant que meilleures épouses, nous permet aussi de parfaire notre connaissance de la relation véritable entre Christ et l'Église. Tout cela ne constitue pourtant qu'un aspect de la famille de Dieu, qui est comment être de meilleurs époux, comment être un meilleur petit frère aussi vis-à-vis de Jésus-Christ, comment pouvons-nous améliorer notre relation avec Dieu lui-même? Voilà un autre élément. Christ est notre frère aîné. Comment aussi, une autre chose très importante, comment aussi être de meilleurs enfants pour nos propres parents aujourd'hui, nos parents humains? Tous ces aspects familiaux représentent autant d'éléments relationnels que nous devons entretenir. C'est cela une famille. Nous avons toutes sortes de relations avec toutes sortes de membres de la famille. Il nous faut imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Et nos relations familiales, une fois restaurées, nous permettent de visualiser plus facilement la signification de notre relation avec Dieu, de notre façon d'imiter Dieu. Pour commencer, il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est nous dérober au regard de nos enfants. Je l'ai dit, nos enfants nous observent, et nous, ils nous observent même si nous n'en avons pas vraiment conscience. Nous sommes pour eux des modèles, des exemples. Nous pouvons être de bons modèles ou nous pouvons être de mauvais exemples. Aux yeux non seulement des enfants, mais des autres membres de notre famille. Quelle que soit la valeur réelle du tissu familial et du tissu relationnel que nous entretenons avec chacun d'entre eux, frères ou sœurs, époux ou épouses, père ou mère, nous sommes un modèle, nous représentons un modèle positif ou bien un modèle négatif. Donc, souhaitons-le, bien sûr, un modèle positif Et cette relation va nous aider à comprendre aussi notre relation avec Dieu. Nous avons des choses à parfaire. Notre relation avec les uns et les autres peut nous faire surgir dans notre esprit, « Oh, il y a tel problème et nous devons en parler à Dieu. » Nous entretenons une relation avec Dieu qui va nous aider à changer. Donc, voilà ce que cette relation et ce que ces différentes relations deviennent au fil du temps. Tout cela va être approfondi, souhaitons-le, et c'est notre responsabilité, à nous d'approfondir notre relation avec Dieu et véritablement d'adresser chaque problème et de véritablement continuer à croître et à grandir dans le bon déroulement de toutes ces relations. Par exemple, si en tant que mari, nous montrons, mettons, oppressants, infantiles ou désintéressés par rapport à l'éducation de nos enfants, ou si nous nous montrons distants par rapport à notre époux, comment notre femme va-t-elle percevoir la relation entre Christ, le chef de l'Église, et l'Église, qui représente son épouse, en quelque sorte? Christ est le sauveur de l'humanité. Donc si une femme, si notre épouse voit notre exemple défaillant, oppressant, distant ou indifférent, va-t-elle comprendre vraiment le rôle de Christ comme elle le devrait? De même, une épouse qui ne cesse de rabaisser, de dénigrer son époux, de l'entraver, de remettre en question à chaque fois ses décisions, des décisions d'ailleurs dont il a la responsabilité, comment les choses vont tourner pour lui? Comment va-t-il pouvoir entrevoir son rôle véritable dans l'Église? Comment peut-il réussir à imiter pleinement Christ, son chef, et à marcher comme Christ a marché? Ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus difficile pour le mari d'arriver à bien intégrer son rôle. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être approuvé et, bien entendu, d'évaluer ses propres décisions, évidemment, mais pas d'être rabaissé constamment. Il est beaucoup plus difficile, sera beaucoup plus difficile pour lui de faire des progrès qui, pour lui, sont pourtant indispensables. L'un et l'autre, époux et épouse, nous avons besoin de nous faciliter la vie l'un l'autre. Nous n'avons pas besoin de nous compliquer mutuellement l'existence. Aidons-nous, supportons-nous, soutenons-nous l'un l'autre et les choses iront déjà beaucoup mieux. Quitte peut-être à souffrir certaines injustices. Et au final, les progrès seront au rendez-vous. Et en disant cela, j'insiste surtout d'ailleurs sur le rôle du mari. Parce que c'est lui qui va pouvoir faciliter et soulager grandement les responsabilités pesantes qui, en fait, sont placées sur son épouse. Elle a besoin d'avoir un mari qui prend le relais. Il est le responsable, il est le leader de la famille. Il doit donc montrer, lui le premier, le bon exemple. C'est à lui aussi d'être là, auprès de ses enfants. J'en ai parlé. Ils ont besoin de voir l'exemple d'un père. Quel meilleur encouragement pourrait-il d'ailleurs recevoir, les enfants, que celui d'un père juste et bienveillant? Un encouragement qui va les aider à mieux percevoir, précisément, je l'ai dit, la personnalité de leur père créateur céleste. Donc c'est important pour eux, c'est crucial. Leur témoigner de l'amour, cela veut dire aussi, savoir leur fixer des limites. C'est important, des limites raisonnables. Leur enseigner pas à pas à distinguer le vrai du faux, le vrai mal du vrai bien, et le vrai bien qui est inscrit précisément dans la parole de Dieu, dans la Bible. Si nos enfants n'obtiennent pas ces enseignements fondamentaux de la part de leur père, comment pourront-ils se présenter un jour devant Dieu sans un esprit de crainte, mal placé, sans inquiétude, sans ressentiment et même, ce qu'il y a peut-être de pire, sans indifférence? Vous savez, quand il n'y a plus aucune... Même le Dieu des cieux qui nous propose la vie éternelle, nous ne ferions pas attention à ces avertissements. C'est terrible quand on y pense. Et c'est précisément ce que nous voulons éviter dans nos vies, si nous voulons hériter de la vie éternelle. Donc, nous, les pères de famille, nous devons donner les bons outils spirituels, d'ores et déjà, à nos enfants, pour leur avenir, pour leur donner les meilleures chances de réussite, les meilleures chances de force de caractère pour leur avenir, afin qu'à leur tour, eh bien, ils puissent devenir des pères et des mères responsables, épanouis, au sens divin du terme. La vie de famille n'est pas chose facile. Ni vous ni moi ne sommes parfaits. Nous ne donnerons jamais l'exemple absolument parfait. Soyons-en bien convaincus. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, en gardant à l'esprit que le fait que nos actes ont toute leur importance. N'oublions pas que, même en faisant ainsi, aussi, le résultat de nos efforts ne dépend pas que de nous. Nos enfants ont une part à jouer. Ils peuvent décider de ne pas suivre notre exemple, aussi bon soit-il, aussi rempli de tous nos efforts soit-il. Ce sera leur décision. Donc comprenons bien que nous ne sommes pas non plus, tout ne dépend pas de nous. Chaque membre de notre famille peut en effet décider de prendre un tournant différent du chemin que nous avons enseigné, ne serait-ce que par notre exemple. C'est possible. Donc encore une fois, faisons de notre mieux. N'ayons pas de regrets ni de remords. Faisons tout ce qui est en notre possible et soyons fidèles et impliquons Dieu, bien sûr, bien entendu, dans nos prières, au bénéfice de nos enfants et de notre conjoint. Nos actes ont un poids considérable dans la vie de nos proches, nous le savons bien. Nos actes les aident à mieux comprendre ce que veut dire le mot famille, à mieux comprendre ce que veut dire le mot père et le mot Dieu. L'amour et le respect sont fondamentaux. Nos proches doivent savoir ce que ces mots veulent dire. Par notre exemple, en tout premier. Donc, il est important que nous les laissions voir notre exemple en action, par notre détermination à agir selon ce qui est juste et quel qu'en soit le prix. Les exemples bibliques sont multiples sur ce sujet. Regardez la vie de Joseph, fils de Jacob, la vie d'Esther, future reine de Perse. Ils savaient qu'il y avait un coup et ils savaient qu'ils devaient rester fidèles et qu'ils devaient faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Nos proches ont besoin de voir dans un père un cœur qui se soucie des autres, des mains qui ne se lassent pas de servir. Ils ont besoin de voir aussi un homme pétri d'humilité, un homme patient, un homme doux. Toutes ces vertus, nous les recherchons et recherchons-les activement au service de nos frères et sœurs, et au service de Dieu. Je ne dis pas que c'est chose facile. Encore une fois, mais voyez-vous, c'est tout le processus d'une vie. Si nos proches remarquent dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, un homme prêt à servir, un père prêt à servir, quel que soit le service demandé, un serviteur de Dieu désireux d'accomplir sa volonté, alors nous aurons contribué à leur faire découvrir ce que signifie faire partie de la famille divine. Je ne voudrais pas clore ce message sur la parentalité. Je vous avais dit que le titre c'était « Parents isolés, mais bon éducateur ». Je ne voudrais pas clore ce message sans parler précisément des foyers monoparentaux et du défi que cela peut représenter. Nombre d'entre nous, en effet, sont confrontés à ces possibilités en tant que père célibataire ou mère célibataire. Nous voilà, lorsque les choses arrivent, tout d'un coup en charge, seul, de l'éducation d'un enfant, ou même de deux ou de trois enfants. Et quel changement lorsque ça arrive? Comment gérer la situation quand elle se présente dans une vie? Il va bien falloir trouver des solutions. Ce rythme effréné de la vie d'un père, de la vie d'une mère célibataire, avec des enfants en âge scolaire, un emploi du temps surchargé qui ne les emplit pas, ces journées qui s'apparentent à une véritable course contre la montre, ces précipitations, il se trouve que, en tant qu'enfant, je les ai vues. Je les ai vécues lorsque ma mère faisait face à une maison composée de deux enfants. Et mon père, son mari, sillonnait les routes. Il était représentant de fabrique et il sillonnait les routes du mardi au vendredi. Donc pendant le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, maman se chargeait de nous deux, mon frère, ma sœur et moi-même. Donc tous les jours, elle devait nous réveiller, ma sœur et moi, elle devait vérifier que nous avions pris notre petit déjeuner, que nos vêtements étaient changés, que nos cartables étaient remplis avec toutes nos affaires, que nos carnets de notes étaient bien signés, que personne n'avait oublié quoi que ce soit d'important. Et comme il n'y avait pas de ramassage scolaire, eh bien, maman devait prendre la voiture pour nous conduire à l'école. Tout était prévu, tout était organisé, et pourtant, c'était toujours, chaque jour, la course. La course et le stress pour ne pas arriver en retard. Et pour maman, la pression ne retombait pas automatiquement. Par exemple, tous les mardis, eh bien, elle avait son marché couvert. Elle allait au marché couvert de Moulins, elle nous achetait pour toute la semaine des produits frais, des légumes, des fruits, du fromage, de la viande, des poissons. Et le jeudi après-midi, nous allions visiter la famille. Les soirées apportaient aussi leur lot de nouvelles exigences. Nos devoirs devaient être frais, bien sûr, avant le dîner. Nous aidions maman à mettre le couvert, à débarrasser la table après le dîner et à faire la vaisselle. Et très vite, maman, au terme d'une journée assez éreintante, nous demandait d'aller nous coucher. Nous ne restions pas très longtemps devant la télévision, ne serait-ce que pour avoir suffisamment de repos et de sommeil nous-mêmes. Alors pour ma mère, c'était la réalité de devoir assumer le rôle de deux parents pendant plusieurs jours de la semaine, jour après jour. Et c'était accablant. Selon ses propres propos, elle nous a dit que c'était un véritable sacrifice. Et je le crois sincèrement. Pourtant, nous étions heureux, tous les vendredis soirs, de retrouver notre père, qui lui-même avait eu une semaine éreintante de travail sur les routes. Mes parents sont restés unis jusqu'au décès de papy, mon père, en 2017. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus de 23 millions d'enfants qui vivent dans une famille avec un seul parent. 23 millions. Parmi ces enfants, environ 15 millions vivent dans des foyers dirigés uniquement par la mère. Tandis que 3,5 millions d'enfants vivent dans des foyers dirigés uniquement par leur père. Donc le reste, c'est bien entendu une sorte des enfants qui sont ballottés dans un va-et-vient entre un foyer monoparental d'un père et celui de la mère. Donc cela a été chiffré selon les estimations de 2024, parues dans un article intitulé « Le bien-être de l'enfant dans les familles monoparentales ». Être un parent isolé dans le monde occidental, ce n'est pas une exception. C'est un phénomène qui devient d'ailleurs de plus en plus grand, de plus en plus croissant, de plus en plus courant. Mais quelle que soit la raison, quelle que soit la cause de cette situation, les parents isolés le savent bien, ils ont l'obligation d'aller de l'avant, ils s'obligent à aller de l'avant, c'est une bonne chose. Il faut que ces choses, pour le bien des enfants, malgré tout, aient lieu. Ils le font avec détermination pour élever leurs enfants avec la meilleure efficacité possible. Et par moments, être parent isolé, comme ce n'est pas facile, comme c'est accablant, cela peut donner l'impression de sombrer dans un véritable océan de tâches et de responsabilités, de priorités, ça n'en finit plus. Et si en plus de ça, il y a un emploi à temps plein, en plus du rôle de parent isolé à temps plein, je vous laisse imaginer l'immensité du fardeau qu'il faut soutenir. Donc, l'éducation monoparentale peut sembler être pour certains une tâche impossible. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle. Pour le chrétien, avec Dieu, tout est possible, tel que nous le lisons dans Matthieu 19, verset 26, Matthieu chapitre 19, verset 26, « Avec Dieu, tout est possible », nous dit Christ. Et Paul ajoute dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, ces paroles très encourageantes, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne nous donne pas des épreuves au-delà de nos forces. Il est là, il est avec nous. Et ici, quand nous parlons de tentation, eh bien, il est question, bien entendu, de la tentation d'abandonner, de baisser les bras, de se réfugier, par exemple, dans un compromis avec un péché à la clé, une solution de facilité qui compromet le bon déroulement du plan de Dieu dans nos vies. Dieu a quelque chose pour nous. Il le garde en réserve. Il peut nous le donner tout de suite, cela arrive, lorsque nous le prions, mais il peut nous dire pas tout de suite, pas encore, pas maintenant. Fais preuve de patience, attends, et tu verras, ces choses se décanteront. La solution de facilité qui consiste à prendre une décision regrettable, ce n'est pas la bonne solution, nous le savons bien. Dieu veut aussi que nous puissions apprendre des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Il y a un bon côté dans ces situations. Elles nous aident à forger notre caractère, à forger notre patience, à forger les vertus que Dieu veut que nous développions. Donc acceptons ces choses et Dieu nous récompensera. Il ne nous laissera pas indéfiniment en proie à ces situations. Il y aura au terme une récompense. Elle pourrait d'ailleurs être beaucoup plus rapide et beaucoup plus immédiate que nous le pensons dans certains cas. Donc faisons toujours preuve de patience, attendons, plaçons notre confiance en Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 11, il nous est dit ces choses, ces paroles encourageantes et en même temps ces avertissements. Il nous est dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu verras ces bénédictions apparaître, il nous est dit, lorsque tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. » Il parle d'Israël dans le désert. Israël a erré pendant 40 ans dans le désert. Une génération entière y est décédée parce qu'elle avait été rebelle. Mais les enfants de cette génération sont entrés dans la terre promise. C'est lui qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Autrement dit, des épreuves difficiles, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi, pourtant, cependant, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. L'épreuve la plus dure s'est révélée être finalement une source de bénédiction, et aussi le secours de l'Éternel n'a pas tardé. Ils ne sont pas morts de soif. Ils avaient tout ce qu'il fallait, mais il leur fallait développer la patience. Et, en plus de cela, écoutez bien, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alors, ces paroles sont extraordinaires. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Voilà le plan de Dieu dans nos vies. La méthode est unique, elle est extraordinaire, c'est une méthode éducative. Dieu ne nous donne pas tout de suite, nous ne sommes pas des enfants gâtés. Dieu veut que nous produisions quelque chose de valeureux en nous. La valeur de notre caractère dépend de la vie que nous avons maintenant. Notre Père, notre Créateur céleste, est toute sagesse. Il est toute bonté. Il ne veut pas nous donner ses largesses comme ça, sans les utiliser à bon escient pour nous, sans nous faire le bien que nous attendons de lui avant de nous avoir humilié et de nous avoir éprouvé. Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous devenions des enfants gâtés, des enfants orgueilleux, des enfants qui vont commencer à se dire, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence, grâce à mes talents que j'ai réussi à parvenir à l'endroit où je suis. Absolument pas. Ce n'est pas la réalité des choses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes ces choses. Non, ce n'est pas la force et la puissance de notre main qui nous ont acquis les richesses de Dieu. Qu'elles soient spirituelles, intellectuelles, physiques, toute richesse vient de Dieu. Et là, au final, tout devient clair. Tout devient clair dans nos vies. Nous comprenons que lorsque nous faisons de Dieu le fondement de notre famille, que nous sollicitons son aide pour élever nos enfants, alors il peut nous accorder, et il nous accordera, la délivrance et la réussite. Mais c'est lui qui le fera, ce n'est pas grâce à nous. Avec Dieu comme force, nous pouvons non seulement survivre, mais nous pouvons aussi pleinement nous épanouir. Voilà ce que Dieu souhaite. Donc soyons dociles, continuons, soyons patients. Non, tout ne sera pas toujours facile. Mais avec de la détermination, avec de la résolution et un partenariat efficace avec Dieu, je le répète, avec Dieu, alors nous pouvons apporter à nos enfants du bonheur, de la joie. Et nous pouvons bâtir des fondations solides pour leur vie, pour eux. Des fondations qui les aideront à se lancer, eux aussi, dans une vie adulte, productive et enrichissante. Voyons ensemble quelques solutions pratiques, si précisément nous sommes des parents isolés, pour nous aider à bâtir un foyer monoparental heureux et sain. La première étape consiste à bâtir des fondations de foi. Que nous soyons père ou mère célibataire, nous sommes, et vous êtes dans ce cas, si vous êtes dans ce cas, le chef spirituel de votre famille. Donc, pour cela, soyons un bon exemple. Devant nos enfants qui nous observent, au moment des repas, nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons aussi le faire sur le rebord du lit avec chacun d'entre eux, avant d'aller nous coucher. Nous pouvons décider d'un moment fixé et réservé et régulier pour étudier la Bible ensemble, avec nos enfants, par exemple, le vendredi soir, chaque semaine. Ayons une étude biblique en famille. Donc, il est important d'associer nos enfants aux prières concernant les besoins de la maison. Au fil du temps, nous bâtissons ensemble, ainsi, un fondement de foi. Paul écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Faisons notre part. Deuxièmement, il est important de s'assurer que nos enfants ont tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il leur faut, dans la mesure de nos moyens, pour acquérir un avenir stable. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin, bien sûr, d'une vie structurée, avec des activités régulières. Un minimum de déménagement aussi, les déménagements sont en général perturbateurs. Donc soyons sûrs de leur accorder la stabilité économique et aussi émotionnelle d'un foyer un foyer véritable au moyen d'actions concrètes, d'actions logiques, cohérentes, quotidiennes. Par exemple, le fait d'avoir un budget cohérent, une bonne gestion des revenus, un budget réaliste, frugal, dans la mesure du possible, bien entendu, en coupant les dépenses inutiles, les dépenses impulsives. Éduquons aussi nos enfants dans la bonne tenue d'un budget, en leur apprenant à épargner, d'une part, à dépenser judicieusement d'autre part, et enfin aussi à être généreux de temps en temps, à donner. Donc toutes ces choses doivent être équilibrées. Soyons prêts à accepter aussi de l'aide lorsque l'Église veut nous aider, lorsque la famille environnante veut aussi nous aider, ou lorsque la communauté municipale ou régionale veut aider. Nous avons des aides nationales. Donc, accepter ces choses, ne les refusons pas, notamment vis-à-vis de l'Église, ne refusons pas d'être aidés par les autres, des initiatives individuelles, acceptons ces choses, hein, nous devons accepter le fait de pouvoir donner, acceptons aussi le fait de pouvoir recevoir, c'est important. Et c'est une marque de sagesse. La stabilité émotionnelle permet aux enfants de se sentir en sécurité au sein de la famille, au sein de leur environnement. Donc, il est important, j'en ai parlé aussi, de leur poser des limites de responsabilité et des limites de discipline, avec, par exemple, des conséquences claires en cas d'infraction, lorsque les règles sont enfreintes. Mais restons calmes, n'ayons pas de réaction disproportionnée, prise sous le coup de l'émotion. Donc, en conclusion, et avec un survol ici rapide des conditions de la monoparentalité, donc être un parent isolé, j'en ai parlé, cela peut de prime abord sembler accablant, mais tenter d'assumer à soi seul des rôles dévolus à deux parents, oui, c'est un fardeau quotidien, un fardeau pesant, très lourd à porter, parfois au prix d'un manque de repos. Mais c'est précisément à cette période que l'enfant va avoir besoin de nous. Donc ne négligeons pas ces choses. Faisons de notre mieux. Personne n'est parfait, ni vous ni moi. L'important, c'est de continuer courageusement. Nous devons persévérer dans la construction d'un foyer solide, fondé sur la foi, fondé sur la stabilité et le soutien mutuel. Donc continuons dans cette voie. Ces choses ne dureront pas éternellement, il y aura des moments, un moment de délivrance. Le psaume 68 de David dit ceci au verset 6, il dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. En effet, Dieu veille constamment sur le bien-être de ses enfants qui le respectent et qui font sa volonté. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de sabbat, et je vous dis à bientôt.